Le 30 novembre 2022, OpenAI rendait accessible au grand public son agent conversationnel ChatGPT. L'intelligence artificielle devenait mainstream. Dans le secteur des médias, certains ont tout de suite parlé d'une nouvelle révolution technologique. Si on prend les 35 dernières années, on pourrait dire que c'est la troisième, après d'abord l'arrivée d'Internet, puis, dans un deuxième temps, les réseaux sociaux. Vu les multiples crises que connaissent les médias, tant du côté du modèle économique que de la confiance, il y a un consensus, encore un peu mou certes, sur le fait qu'il n'y a pas le choix, il faut s'emparer de l'IA. Alors, on expérimente, avant peut-être un jour de sauter dans le grand bain. Salut, c'est Steven Jambeau, vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Cette semaine, l'émission dure une vingtaine de minutes, à la radio comme en podcast. Vous l'entendez sans doute derrière moi, nous ne sommes pas dans les studios feutrés de RFI, mais dans un lieu public, un lieu de savoir. La Bibliothèque Nationale de France, site François Mitterrand, dans le 13e arrondissement de Paris. Un sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, tout un programme, se tient à Paris, et c'est une merveilleuse occasion pour regarder de près ce que le développement de l'IA générative change dans la chaîne de production de l'information. Tout à l'heure, je recevrai Olivier Martinez, qui est un expert de tout ce qui touche à l'IA, et notamment l'IA générative. Mais d'abord, nous allons revenir sur une cartographie des enjeux et usages de l'IA pour le journalisme, qui a été mise en ligne jeudi 6 février. Elle est portée par 5 groupes audiovisuels publics, France Télévisions, Radio France, France Média Monde, TV5 Monde et l'Institut National de l'Audiovisuel, qui a piloté le projet. Pour en parler, j'ai convié le directeur éditorial de l'INA.
RFI.
Bonjour Antoine Baillet.
Bonjour Steven.
Je vais te tutoyer parce que nous nous connaissons très bien. Cette cartographie, c'est un document PDF de 17 pages qui est accessible gratuitement sur le site de référence la revue des médias.ina.fr. C'est un cadrage des usages en matière d'IA actuellement dans les médias en prenant en compte l'ensemble de la chaîne de production de l'information et vous avez listé 4 territoires. Explique-nous.
Eh bien, les 4, très classiquement, en fait, on a essayé de faire un état des lieux un petit peu et de réussir à évaluer cette révolution IA et son impact sur la chaîne de production de l'information. On l'a donc étudié sur tous les aspects de cette chaîne de production de l'information et effectivement donc sur ces 4 grands territoires qui vont être la collecte et la préparation de l'information, qui vont être la production, l'édition de l'information, la vérification de l'information et enfin sa chaîne de diffusion. Et ce qu'on a cherché à faire pour chacun de ces temps de l'information, c'est d'identifier les conséquences, non pas de tel ou tel outil, non pas en tant que marque, mais en tant que potentiel facteur qui va bousculer, qui va faire évoluer la manière dont on pratique le journalisme. Il n'y avait pas vraiment aujourd'hui de cartographie qui mettait en face des différentes fonctions du journalisme les outils qui sont aujourd'hui ceux générés par l'intelligence artificielle générative.
Vous présentez ça justement comme une cartographie inédite et vous proposez aussi une grille d'évaluation des outils, une méthode en fait avec des critères et des curseurs à placer pour chacun des points et chacun des impacts de l'IA dans le domaine de l'information.
En fait, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui quand on est dans un média de réussir à appréhender ce que l'IA générative peut vraiment faire ou non sur la fabrique du journalisme. C'est encore plus vrai quand on est par exemple une petite rédaction parce qu'il y a un travail de veille, il y a un travail d'identification des enjeux qui est constant, surtout qu'il y a une évolution et un gain de maturité d'efficacité des outils d'intelligence générative qui est assez bluffant. Tous les 6 mois, vous allez avoir un nouvel outil, une nouvelle fonctionnalité.
Même plus que tous les 6 mois, on peut le dire.
Et même beaucoup plus que tous les 6 mois. On est même plutôt tous les 6 jours, voire toutes les 6 heures, peut-être.
Exactement.
Peut-être même. Et donc, effectivement, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est une proposition qui permet à des rédactions, qui permet à des rédacteurs en chef, qui permet à des journalistes de se dire, OK, cet outil a une utilité pour moi si je le regarde avec ses critères, par exemple, de maturité, avec ses critères d'impact environnementaux. Ben oui, c'est aussi quelque chose qui est très important là-dessus. Et c'est ce qu'on... Voilà, donc on permet à chacun, après ça, dans des rédactions, c'est clairement un outil qui est destiné à des journalistes, de se placer sur des curseurs et ainsi de se dire, OK, cet outil-là, j'ai intérêt, moi, quand je suis RFI, moi quand je suis l'INA, moi quand je suis un site d'information ailleurs, j'ai intérêt à l'utiliser.
L'idée, c'était aussi de ne pas oublier les enjeux transverses liés à l'intelligence artificielle qui sont propres aux entreprises des médias, et vous en avez listé plusieurs.
Le principal, on va commencer par là, et c'est peut-être chronologiquement le premier qui s'est posé. Si on retrace un tout petit peu ce qui s'est passé, tu le disais d'abord avec ChatGPT, qui effectivement a contribué à mettre à l'agenda le sujet de l'intelligence artificielle dans les médias. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que là, j'ai un chiffre à te donner. L'intelligence artificielle est 7 fois plus présent comme mot-clé dans l'ensemble des médias audiovisuels français depuis que ChatGPT est arrivé. C'est quelque chose qu'on a mesuré à l'INA et qui illustre bien quand même ce moment lié à l'intelligence artificielle.
Donc depuis 2 ans et 3 mois maintenant.
Absolument, depuis novembre 2023. Et du coup, effectivement, parmi les enjeux, le premier qui s'est posé, c'est celui de l'utilisation des propres données des médias. Et quelque part, c'est par là que les médias ont commencer à appréhender la question de ChatGPT. ChatGPT et intelligence artificielle. Est-ce que nous, médias, nous autorisons ChatGPT à se nourrir, par exemple, de nos données pour entraîner son modèle ? C'est par là que ça a commencé. Ça, c'est un enjeu transverse. Les réponses, elles ont été assez unanimes. En l'occurrence, par exemple, en France, les médias ont refusé, sauf un journal d'ailleurs, papier, d'autoriser ChatGPT à se nourrir de ses propres données.
Dans les autres enjeux transverses, vous avez noté les idées d'acculturation et de formation à l'intelligence artificielle dans les entreprises, les questions de gouvernance, d'organisation, mais aussi de système, de sécurité des systèmes d'information.
Aujourd'hui, quand on est une rédaction, quand on est journaliste, on va pouvoir avoir envie d'utiliser, évidemment, un outil comme ChatGPT, on pourra en citer beaucoup d'autres, pour par exemple penser un angle, pour par exemple faire analyser une masse de données qu'on a collectées lors d'une enquête. Évidemment, quand un journaliste va de manière proactive aller utiliser et mettre ses propres données sur un outil externe, ça pose un enjeu en termes de sécurité, de souveraineté, qui est assez incroyable, puisque l'outil va pouvoir se nourrir d'informations avant même qu'elles ne soient publiées, avant même qu'elles ne soient diffusées. Donc l'enjeu est évidemment extrêmement fort là-dessus.
Donc on expérimente tout en étant vigilant. Cette cartographie, c'est le fruit d'une initiative conjointe des groupes de l'audiovisuel public français appelée Alliance for Facts, l'Alliance pour les faits, en appui avec l'EBU ou UER en français, l'Union Européenne de Radio-Télévision. C'est quoi la suite, Antoine Bayet ?
L'Alliance for Facts, elle débute effectivement en ce moment, en marge de ce sommet pour l'intelligence artificielle. C'était une manière pour nous, groupe audiovisuel public, de dire que l'information est un enjeu dans ce moment particulier, dans ce sommet particulier où les enjeux sont très nombreux. Ils sont business, ils sont culture, mais il y a aussi un enjeu particulier sur l'information. Donc notre manière de contribuer pour l'instant, c'était déjà de se dire, OK, il y a besoin qu'on se réunisse ensemble là-dessus. Cette cartographie, c'est la première étape. Et la suite, parce que suite il y aura forcément vu l'évolution, ce sera par exemple de tester, d'éprouver des outils, de régulièrement pouvoir continuer à passer encore une étape dans cette cartographie et à mettre en commun des résultats de veille ou de pratique par exemple.
Antoine Bayet, je te remercie. Je rappelle que tu es directeur éditorial de l'INA. Cette cartographie, on la retrouve sur larevuedesmedias.ina.fr. Je te dis à bientôt.
Salut Steven.
Une petite respiration musicale avec un titre issu de la liste de diffusion de RFI Musique. Il est brésilien, carioca même. Il est en tournée française et sera au New Morning à Paris le 25 mars. On écoute João Selva avec Maré vai subir, la marée va monter, funk do Brasil.
Uma canção pra falar. Poucas notas pra falar, meu bem. São palavras pra falar. Com você é importante. Tanta história pra contar. Lado a lado caminhar faz bem. Sem você não sei trilhar. Estrada aberta do presente. agora chego. Guiados pelo sol, nunca se separa. Eu e você, agora vem brilhar. Juntos na luz do sol, nunca se separa. Tão simplesmente.
Vous êtes sur RFI, l'atelier des médias se poursuit. Nous sommes à la Bibliothèque nationale de France à Paris dans le cadre du week-end culturel qui précède le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. Et Olivier Martinez a profité de la musique pour me rejoindre. Bonjour Olivier.
Bonjour Steven.
Pour te présenter en quelques mots, tu es le créateur de la newsletter IA-Pulse.news et fondateur de la société 255HEX.AI qui accompagne des entreprises dans l'intégration des outils d'IA générative. Tu es aussi professeur affilié à Sciences Po Exécutif Paris où tu donnes des clés de compréhension de ces technologies aux dirigeants et managers dans les secteurs du privé et du public. Tout d'abord, que t'inspire cette cartographie des enjeux et usages de l'IA dans le journalisme dont on parlait il y a quelques minutes?
Alors écoute, je pense que c'était un travail qui était quasi obligatoire et j'étais assez étonné en fait qu'il ne soit pas fait avant, en vrai. Je pense que ça montre bien les deux gros enjeux, en fait, un enjeu un peu structurel de comment on travaille avec ces outils, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et puis des enjeux qui sont un peu transverses, comme Antoine en parlait juste après, hein, des questions qui se posent vraiment très fortement sur comment ça fait bouger nos métiers, comment ça fait bouger les métiers du journalisme et des médias.
Je t'ai reçu au micro de l'atelier des médias en janvier 2023, puis en janvier 2024, et sur le chemin de la BNF, je réécoutais ces émissions qui semblent déjà de la préhistoire en matière d'intelligence artificielle générative.
Ouais, je crois que vous avez dit juste avant, tous les 6 mois, tous les 6 jours, toutes les 6 heures.
Alors,
c'est un peu ça. C'est un peu ça quand même, c'est quelque chose qui est un peu un rouleau compresseur. Qui est un peu organisé aussi d'une manière marketing hein, par tous les acteurs de l'IA générative, mais c'est quelque chose qui vraiment est marquant dans la manière dont cette technologie est distillée dans la société.
Quand on est journaliste, quand on est un média, là, en 2025, qu'est-ce qu'on peut faire de bien actuellement et avec quels outils en matière d'intelligence artificielle générative qui produisent, qui créent et qui conversent?
Alors, il faut distinguer plusieurs types d'outils. On a ce qu'on peut intégrer directement, utiliser directement comme des ChatGPT, hein, qui ont quand même un problème de gouvernance des données. Hein. On a quand même quelque chose qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que, Antoine l'expliquait juste avant, c'est la vraie question, est-ce que si je mets des infos exclusives dans le ChatGPT, est-ce que ça ne va pas être pris à un moment donné? Puis après, on a deux autres niveaux qui sont un peu plus techniques, qui demandent un peu de développement, un peu comme vous avez fait à RFI, à France Média Monde, où en fait, vous avez des outils qui sont maison, vous avez avoir des outils qui sont développés par des informaticiens, par des développeurs qui vous assistent et qui peuvent vous donner des accès à la génération de contenu, à justement trouver peut-être des choses qu'il y a dans des corpus de texte, par exemple, dans le speech-to-text, par exemple.
Donc c'est ça, en gros, l'enjeu du moment, c'est de se dire pour une organisation, pour un journaliste, est-ce que je me sers d'un outil disponible en ligne gratuitement ou avec une petite barrière payante à l'entrée, ou alors est-ce que je suis dans une organisation qui est suffisamment costaud, solide et qui a les moyens d'être en mesure eh bien, d'acheter des solutions et de les internaliser en partie? C'est un peu ça?
Alors, c'est un peu ça, mais c'est aussi, c'est pas obligatoirement quelque chose qu'on achète. Il y a des endroits comme Hugging Face où on peut récupérer des modèles en open source, en libre, qu'on peut utiliser soi-même. Le tout, c'est un peu d'être un peu bricoleur. Tu sais, c'est un peu l'internet des années 90 ou les PC des années 90 où il fallait être un peu geek pour que ça fonctionne. Bah là, on est un peu à ce stade-là encore en ce moment.
L'année dernière, tu me disais, il ne faut pas utiliser l'IA pour utiliser l'IA. Est-ce que tu as changé dans cette idée-là? Si je t'entends bien, il faut tout de même se lancer quoi qu'il arrive. Il faut tester, il faut bidouiller.
Alors, il faut bidouiller, mais il ne faut pas l'utiliser en mode prod, produire quelque chose juste pour utiliser l'IA. On doit répondre à un besoin. On doit répondre à une demande, que ça soit journalistique ou que ça soit de production pure, hein, de diffusion, par exemple. Il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de diffuser des médias un peu autrement, d'adapter des formes de contenu. Mais il faut pouvoir répondre à quelque chose. Si c'est juste pour faire joli, ça ne marchera pas très bien.
Donc là, ce qu'on demande souvent aux journalistes, c'est d'avoir des idées, de trouver des angles. Là-dessus, il y a des intelligences artificielles conversationnelles, des chatbots qui sont efficaces sur ces sujets-là?
Alors, c'est ce qu'on appelle de l'idéation. Hein, les modèles de langage sont capables de faire beaucoup, beaucoup d'idéations. Alors, il y a beaucoup de déchets dans ces idéations. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'utilise pas directement ce qui est produit par la machine. Ce qu'on se rend compte, c'est que l'être humain À chaque fois qu'il lit un peu des idées un peu hors normes ou un peu sur, tu vois, sur la tronche, en fait, ça fait que ben, chez nous, ça fait naître d'autres idées. C'est à ce moment-là, en fait, que c'est à ce moment-là que ça accélère en fait notre processus de production.
Alors, quel outil faut-il utiliser ? Quel outil utilises-tu, toi, pour trouver des idées ?
Alors, moi, j'utilise beaucoup les modèles de langage. J'utilise à peu près tous les modèles de langage, mais c'est mon job. Je dirais qu'en ce moment, on peut utiliser pour faire de l'idéation du ChatGPT, hein, il n'y a pas de problème. On peut utiliser des outils qui sont un peu plus libres. Alors, je mettrai de côté DeepSeek, qui a un autre problème. Hein,
chatbot chinois.
Voilà, chatbot chinois qui, d'un point de vue purement modèle de langage, est un modèle open source. Donc, si on a les moyens techniques de le prendre avec des développeurs chez soi, il n'y a pas de problème. Utiliser la version en ligne comme ChatGPT, c'est un peu plus problématique. Toutes les données partent, et là c'est très explicite, hein, partent directement vers des entreprises chinoises, donc il faut faire attention. Voilà, un ChatGPT ou un équivalent de ChatGPT, il n'y a pas de problème. L'idéation, c'est vraiment quelque chose qui est commun à tous les modèles de langage.
Et il faut toujours faire attention de ne pas utiliser ces outils-là comme des moteurs de recherche.
Alors, ce ne sont pas des moteurs de recherche. En revanche, maintenant, ce sont des interfaces pour interroger des moteurs de recherche. Et tous ont sorti une fonctionnalité qui est recherche web. Et en fait, ils se chargent pour nous d'interroger un moteur de recherche, de récupérer les résultats et de les mettre en forme. En fait, ils font le travail qu'on faisait nous il y a encore quelques temps, c'est-à-dire on était sur Google ou sur Bing, on tapait un mot-clé, on avait X résultats, on regardait 1, 2, 3 résultats, puis on prenait un peu le contenu qui nous intéressait. Là, maintenant, ils font ce boulot-là à notre place. Ils vont regarder tous les résultats et nous en font un résumé.
Quelles sont les tendances actuellement en matière de modèles d'intelligence artificielle, Olivier Martinez ?
Alors, en ce moment, il y a beaucoup de modèles qui deviennent des modèles de réflexion, de raisonnement. Hein, c'est la grande tendance. C'est les modèles qu'on va voir qui sont déjà arrivés un petit peu et qu'on va voir fleurir un peu partout et qui imitent la manière dont un raisonnement humain peut être fait sur une question. Voilà.
Il y a aussi des agents de recherche, en préparant cette émission, tu me parlais de Deep Research, mais qui a le problème, c'est qu'il coûte cher.
Alors, ça coûte cher, non seulement pour l'instant les outils coûtent cher, ça coûte aussi d'un point de vue purement, on va dire, environnemental. Hein. Ce sont des requêtes qui durent très très longtemps, qui font marcher beaucoup les GPU. En gros, ce sont des agents de recherche qui vont beaucoup plus loin que la simple recherche web. Ils vont regarder 100, 300, 400 pages et ils vont en faire un dossier complet sur une question.
Et il y a aussi des outils de type Notebook LM qui fait donc, on peut lui soumettre une montagne de documents, notre propre corpus textuel. Et bizarrement, plus on envoie des textes intelligents à une intelligence artificielle, plus le modèle est intelligent.
C'est un truc de fou, ça. Hein. C'est vraiment dans la bonne imitation humaine. Hein. Plus on donne quelque chose d'intelligent à un humain, plus il devient intelligent.
Alors, aussi, le futur, c'est de développer des modèles plus petits, des modèles open source, comme tu l'as dit. L'ère de la frugalité est peut-être venue dans l'IA.
Alors, il y a un paradoxe quand même. C'est que quand on développe des outils plus frugaux, qui sont simples d'accès, ben, on les utilise beaucoup plus. Et donc, au final, on ne gagne pas tellement. Donc, il faut faire attention à ça. Mais oui, l'avenir est aux modèles qui sont peut-être plus spécialisés, plus simples à utiliser pour les gens. Et qui, sur un moment, un instant T, coûte moins.
Je listerai dans la page de l'Atelier des médias quelques outils et quelques liens pour approfondir cette conversation. Olivier Martinez, je te remercie d'être venu comme chaque année faire le point sur les usages de l'IA générative dans les médias, dans l'Atelier des médias.
Merci Steven.
Je rappelle ta newsletter ia-pulse.news. C'est ainsi que se termine l'Atelier des médias spécial IA, enregistré samedi 8 février 2025 à la Bibliothèque Nationale de France à Paris. Je remercie Simon Decreuse, le réalisateur de cette émission, ainsi que les équipes des moyens techniques de RFI, Benjamin Vaillou, Boris Vichit, Julien Boileau et Richard Rifono. L'Atelier des médias, c'est une émission de radio diffusée d'abord en podcast. Choisissez votre application d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore les applis Radio France et RFI Pure Radio. Je vous rappelle notre adresse email, moyen le plus direct pour nous contacter, atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.